André Etcheverry, vous êtes le directeur de clientèle de l'ESCO. L'ESCO, c'est un très grand groupe, European Salt Company. On est là pour parler du sel. Le sel, d'abord, c'est la vie.
Oui, alors le sel, effectivement, c'est la vie. Sans le sel, l'être humain ne serait pas là. Et si je dis l'être humain, tout ce qui va aussi avec, toute l'industrie chimique ou l'industrie agroalimentaire n'existerait pas, ou du moins existerait sous une autre forme.
Alors, quels sont les différents types de sel? En fait, il n'y a qu'un seul sel, mais c'est la façon de l'exploiter qui diffère.
Voilà, alors l'origine du sel, c'est toujours du sel de mer. Par contre, effectivement, ce qui différencie, c'est le mode de production. Alors, si vous prenez les différents modes, on retrouve d'abord le plus connu, je dirais, sur le marché français, c'est le sel de mer. Donc, qui dit sel de mer dit marais salant. Ensuite, vous avez le sel de terre ou sel raffiné, donc qui est exploité par. Sous le principe de un petit peu de du forage pétrolier, je dirais qu'on s'inspire d'un forage pétrolier. La veine de sel se trouve sous la terre, alors à des profondeurs qui peuvent aller de moins de 200 à moins 400 mètres sous la terre, et on injecte de l'eau douce et on remonte donc une eau salée qui s'appelle de la saumure. Et ensuite, on procède par une évaporation sous vide. Donc, ce sont deux modes de production qu'on trouve sur le territoire français. Maintenant, si on élargit, si on regarde un petit peu sur l'Europe, il y a un troisième mode de production qui sont les mines de sel, qui sont exploitées sur le même principe que les mines de charbon. Et là aussi, donc, on va chercher les veines de sel entre moins 500 mètres et moins 900 mètres.
Elles se trouvent où ces mines de sel les plus importantes?
Alors, la plus importante, la plus connue, c'est la mine de sel qui se trouve à Bort, en Allemagne.
Alors ça c'est pour l'Europe, mais dans le monde?
Alors, dans le monde, bah, du sel, on en trouve un peu partout, je dirais. Puisqu'on parle d'ESCO, dernièrement, notre société a fait l'acquisition de mines de sel au Chili. Et aujourd'hui, le groupe ESCO est le troisième producteur de sel au monde.
Alors là, en ce qui concerne le Chili, c'est presque ce qu'on appelle les déserts de sel. Hein. En fait, c'est du sel qui affleure pratiquement.
Tout à fait. Alors tout à l'heure, je parlais de sel de marais salant, de sel raffiné, de sel de mine. Là, effectivement, la production de sel au Chili se trouve au niveau du sol, puisqu'on est à moins 30 ou moins 50 cm en dessous du niveau du sol. Donc c'est vraiment à fleur de sol.
André Etcheverry, qu'est-ce qu'on fait avec le sel, finalement, en pourcentage?
Alors, en pourcentage, qu'est-ce qu'on peut faire avec le sel? Le sel, on le trouve dans une multitude d'applications. Alors, d'abord, on va parler du sel qu'on peut trouver dans la consommation humaine, donc qui est vendu dans tous les circuits traditionnels de la grande distribution. Je peux donner un ordre de grandeur, on va dire, c'est 80 000 tonnes de sel qui sont vendues via ce circuit-là.
Ça représente combien de pourcentage? C'est la plus grosse consommation de sel, le sel alimentaire en quelque sorte.
Donc, si on prend le marché français, la plus grosse consommation de sel se fait dans le domaine du sel de déneigement. Sur une année moyenne, on consomme sur le marché français environ 1 million de tonnes. On estime à 1 million de tonnes la consommation de sel sur une année moyenne. Effectivement, si je prends le dernier hiver, malheureusement, on était très loin de ce chiffre-là, mais sur une moyenne, on tourne autour de 1 million de tonnes.
Donc la plus grosse consommation de sel en France, c'est pour déneiger, 1 million de tonnes sur une production, sur une consommation de combien?
Sur une consommation on peut estimer à 5 millions de tonnes, dont la moitié est vendue sous la forme de liquide, je dirais, de saumure, et l'autre 50% est vendu sous la forme de solide. Alors, les différentes applications, ce sel est utilisé, on le retrouve dans la fabrication des aliments en détail, on le retrouve aussi dans l'industrie chimique, dans le textile. On trouve aussi du sel dans un créneau qui est aujourd'hui en développement, c'est le secteur du traitement de l'eau, pour l'adoucissement de l'eau.
Les pastilles de sel.
Voilà les pastilles de sel, tout à fait. Aussi un marché qui est en évolution, puisque c'est le domaine du sel vendu dans le secteur de la piscine, puisque On remplace de plus en plus, les piscines sont équipées d'électrolyseurs à sel. Donc, qui dit électrolyseur dit consommation de sel. Et ensuite, on consomme aussi du sel dans le domaine de l'agroalimentaire et on en retrouve aussi dans le domaine de la pharmacie.
Alors finalement, la part du sel, celui qu'on consomme, là, le sel qu'on utilise dans la cuisine, elle est très faible.
Oui, effectivement, c'est le produit, c'est le créneau sur lequel il est le plus marketé, il est le plus connu parce que quand on parle de sel, on va dans une épicerie, on retrouve le sel. Mais effectivement, la consommation de ce sel dans ce secteur-là, n'est pas la consommation la plus importante. Ce sont les industries, je dirais, chimiques qui consomment le plus de sel.
On est ici au Pays Basque, dans la vallée des Alluds, chez un ami, Pierre Oteiza, qui fait un jambon de porc basque extraordinaire. C'est pas par hasard que je vous ai rencontré ici.
Non, tout à fait, ce n'est pas par hasard. D'abord, mon nom rappelle les origines basques. Ensuite, si j'ai parlé de ma société, donc, qui est le groupe ESCO, ESCO a une usine à Bayonne qui produit du sel, et ce depuis plusieurs décennies. Moi-même, donc, je suis issu de cette usine de Bayonne, dans laquelle on produit du sel de Bayonne. Et évidemment, quand on est basque et qu'on travaille dans le sel, on ne peut pas ne pas passer par les Aldudes et venir voir notre ami Pierre Oteiza.
Et le sel a un rôle énorme, colossal, puisque sans ce sel dont vous parlez, il n'y aurait pas ces jambons magnifiques, quoi.
Oui, alors, il y a quelques années, il s'est commercialisé en France, on parlait toujours de jambon de Bayonne, mais du jambon de Bayonne, on a fabriqué un peu partout. Il y a un organisme qui a voulu mettre un peu d'ordre là-dedans, et les producteurs se sont organisés, ont obtenu ce qu'on appelle une IGP, et dans le cahier des charges de l'IGP, jambon de Bayonne, donc parmi les ingrédients figure le sel, et il faut que le sel soit un sel produit dans la vallée de l'Adour. Donc, en l'occurrence, on peut trouver du sel soit venant de Salis de Béarn, soit du sel venant de l'usine de Bayonne, donc du sel de Bayonne.
Pour finir, André, est-ce qu'on peut parler dans le sel de cru, comme on parlerait de cru de vin?
Non, je pense pas qu'on peut parler de cru, mais par contre, les connaisseurs, vraiment les grands connaisseurs, savent faire la différence entre un sel et un autre sel. Par exemple, si je prends le sel de Bayonne, d'abord il se reconnaît à sa blancheur, mais il a une saveur particulière. Il a un croquant qui lui donne un goût particulier. Si je prends un sel marin de l'Atlantique, il aura un autre croquant et il aura aussi en bouche une autre saveur. C'est pour ça que je dis que chaque sel a une saveur particulière, a un goût particulier et peut être différencié.
André Echeverri, merci.